Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est l'un des principaux points de discussion des états généraux de la bioéthique dont la phase de consultation vient de s'achever après plusieurs mois de discussion. La fin de vie, mais aussi, et même si ce sont des choses très différentes, l'euthanasie et le suicide assisté continuent à faire l'objet de discussions sur fond d'affaires médiatisées ou de comparaisons avec ce qui se passe chez les voisins européens de la France, en Belgique et en Suisse notamment. Ce sont des questions sensibles sur lesquelles la société évolue et il est difficile de fixer ou d'adapter un cadre juridique commun sur ces questions qui concernent les convictions philosophiques ou religieuses, bref, la conscience de chacun. Néanmoins, faut-il une nouvelle loi sur la fin de vie ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir. Valérie Depatte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en droit privé, spécialisée en biomédecine, conseillère de l'espace éthique Île-de-France et vous avez pris part à la mission présidentielle de réflexion sur la fin de vie dirigée par le professeur Didier Sicard en 2012, mission qui a participé à l'élaboration, l'adaptation de l'actuelle législation.
Oui.
Et en duplex de Lyon, Jean-Louis Touraine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, député La République En Marche du Rhône, porteur d'une proposition de loi sur la fin de vie et vous êtes à l'origine de la tribune signée par 156 députés qui demandent une nouvelle loi sur la fin de vie. On va commencer par faire le point sur la législation actuelle en France, en vigueur depuis environ 2 ans. La loi Claeys-Leonetti autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme et que la souffrance est réfractaire au traitement. En revanche, pas d'euthanasie ou de suicide médicalement assisté, comme c'est le cas en Suisse ou en Belgique. Valérie Depatte, quelle réflexion a conduit à cette législation, à cette loi ?
La loi de 2016 est le fruit d'une longue réflexion et aussi d'une demande qui est montée dans la société de pouvoir décider au nom de la liberté individuelle du moment de la fin de sa vie. Maintenant, cette loi qui a souvent été présentée comme une loi de transition, et l'histoire montre qu'elle l'était, ne satisfait personne. Pour ceux qui demandent l'euthanasie ou disons l'assistance active à mourir, elle est insuffisante, elle ne va pas assez loin. Et pour ceux qui la refusent, c'est de l'euthanasie parce qu'ils refusent de voir la différence entre une sédation profonde et continue et l'euthanasie.
Alors, Jean-Louis Touraine, vous êtes à l'origine d'une tribune qui réclame une nouvelle loi sur la fin de vie. Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Parce que les conditions actuelles sont, comme cela vient d'être très bien expliqué, insuffisantes et ne répondent pas aux demandes des patients. Il y a une médecin qui réalise des euthanasies dans des centres de soins palliatifs, Corinne Vanos, qui a écrit le livre « Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie », qui explique très bien qu'un malade qui souffre ne demande pas le sommeil, mais il appelle la mort. Quand on est dans la souffrance totale d'une phase pratiquement agonique, c'est-à-dire la phase terminale d'une maladie incurable, dont on sait qu'il n'y a aucune issue, à ce moment-là, on demande à être soulagé, à être délivré des souffrances de toute nature, qu'elles soient physiques, psychiques ou autres.
Monsieur Touraine, je me permets juste de vous interrompre. Est-ce que c'est le cas de 100% des malades qui sont dans ce cas-là ?
Non, bien sûr. Non, d'ailleurs, en Belgique, l'euthanasie correspond à 1,8% de l'ensemble des décès. Vous voyez que c'est un pourcentage faible. Il y a effectivement beaucoup de patients qui attendent la fin naturelle. Et c'est très logique dans la mesure où vous n'avez pas cette souffrance intolérable et que la fin de vie se déroule de façon naturelle. C'était d'ailleurs le cas dans le passé. Mais les moyens modernes non seulement prolongent la vie de façon considérable, et c'est bien ainsi, mais ils prolongent aussi les agonies et les souffrances terminales. Et c'est de cela dont nous devons nous préoccuper, car cela a été créé par l'amélioration des pratiques, la survie plus prolongée des malades, qu'ils soient cancéreux, avec des maladies neurologiques graves ou autres. Et donc, à ce moment-là, ils en appellent à cette délivrance qui peut relever de leur du mode qui correspond à leur propre choix. Il n'est pas question dans la proposition de loi que je formule d'imposer quoi que ce soit à quiconque. Chacun peut choisir. C'est le droit de choisir que nous demandons, et ce droit de choisir d'abord pour le malade puisque c'est lui qui exprime cette volonté, et ensuite pour le médecin, puisque nous considérons que seuls doivent être associés à ces aides actives à mourir les médecins qui sont volontaires pour cela, les autres évoquant la clause de conscience.
Valérie Depade, vous êtes d'accord, ce sont les progrès de la médecine en fait,
oui,
qui posent
sûr.
Le problème. Hein.
Bien sûr, les progrès de la science ont entraîné des prolongations de vie dans des conditions
de
parfois insupportables, parce qu'on maîtrise la prolongation, on ne maîtrise pas la qualité de la vie. Donc on peut tout à fait évidemment concevoir qu'à ce moment-là, l'aide active soit le dernier geste du médecin. Moi, c'est comme ça que je la vois, dans le cadre d'un cheminement entre du colloque singulier, comme on disait autrefois, entre le médecin et son patient, et qu'à un moment, quand le médecin se trouve dans une impasse parce qu'il ne peut plus soulager la douleur, et la douleur, quand elle est terrible, elle envahit l'âme, elle envahit l'esprit, les gens ne sont plus que douleur, à ce moment-là, et c'est ce que voulait déjà la loi de 2016, et même celle de 2005, on veut intervenir pour soulager la douleur. Mais, pour moi, il faut que les choses soient bien claires. On parle de faire évoluer la loi, jusqu'où? C'est-à-dire, est-ce que la personne atteinte d'une maladie incurable, par exemple dégénérative, dont elle connaît l'issue fatale, pourra demander à mettre fin à ses jours au moment où elle le décide, ou est-ce qu'on ne parle que de la fin extrême de la vie? Ça, c'est la première chose. Et puis, je crois qu'il faut être très clair dans la présentation pour le public. Il ne s'agira jamais, je ne pense pas, en tout cas, d'un droit à demander une aide active à mourir, ou d'un droit à une aide active à mourir. Il s'agira d'un droit à demander au médecin d'évaluer si oui ou non on entre dans les conditions qui vont permettre l'aide active à mourir.
Alors, le texte actuel est appliqué depuis pas tout à fait 2 ans, en fait, à la loi de 2016. Est-ce que ce n'est pas un peu rapide, Jean-Louis Touraine, pour l'évaluer et donc le modifier ?
J'aurais 2 réponses à cela. La première, c'est que beaucoup des lois que nous votons depuis le début de ce mandat sont des lois qui complètent les lois précédemment votées il y a 1 ou 2 ans, parce qu'il y avait des lacunes. Eh bien là, il en va de même. Il y a des lacunes dans cette loi. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause l'existant de la loi. Je pense que la loi Claeys et Leonetti a apporté certains avantages. Ceux qui veulent cette sédation peuvent y recourir. Ceux qui veulent rédiger des directives anticipées, désigner une personne de confiance, ont des conditions qui sont maintenant mieux définies que dans le passé. Donc il y a des acquis. Mais il reste une grande lacune, c'est l'impossibilité pour les gens de choisir leur mode de vie. Et ce droit à disposer de sa vie, de son destin, jusqu'à son terme, doit être maintenant inscrite dans notre arsenal législatif, parce que on ne peut guère imaginer que au XXe siècle, les femmes aient pu acquérir, très justement, le droit à disposer de leur corps, mais que maintenant, au XXIe siècle, les mourants n'aient pas encore le droit de disposer de leur corps et de leur fin de vie dans les conditions qu'ils le souhaitent. Je redis ce qui vient de vous être excellemment indiqué, c'est un droit à demander. Dans ma proposition de loi, je postule un collège de 3 médecins qui analysent la demande de la personne pour s'assurer qu'elle formule cette demande de façon réitérée, de façon réfléchie, après avoir été éclairée sur toutes les possibilités, et bien entendu, en n'étant pas dans une phase de dépression qui pourrait expliquer un geste suicidaire.
Voilà, qui va décider ? Est-ce que c'est la personne concernée ? Est-ce que c'est la famille ?
C'est la personne d'abord.
Est-ce que c'est les médecins ?
La personne d'abord, mais ça doit être validé par un collège médical qui considère que l'on est bien dans une impasse thérapeutique, que l'on est bien dans une phase terminale d'une maladie incurable et que la demande est parfaitement légitime.
Ouais, alors donc je poursuis. Et si le patient ne dispose pas donc de toutes ses facultés, s'il n'y a pas de famille ou si elle se déchire, on connaît des cas très médiatisés là-dessus. C'est des questions très compliquées, Agnès Valérie Depade. Est-ce qu'une loi peut régler toutes ces questions ou est-ce qu'il faut bien
Non, vous savez voilà. Par définition, la loi est générale et abstraite, donc elle ne pourra jamais, quelle que soit la loi et quel que soit le domaine, elle ne peut jamais régler toutes les situations. Maintenant, elle pose un cadre. Elle pose un cadre qui laisse toujours une marge de manœuvre, avec parfois des accidents comme l'affaire Lambert, où effectivement, entre la loi, la décision, la famille, l'interprétation de la loi, on se perd. Ça arrivera de toute façon, mais ça arrivera de façon exceptionnelle.
Alors, le Conseil économique et social et environnemental veut lui aussi aller plus loin. Il y a un texte qui a été sorti il y a quelques semaines. Il parle dans sa proposition d'une sédation profonde, explicitement létale, par rapport à la situation actuelle. On parle de sédation profonde jusqu'au décès
et continue.
Est-ce que c'est une évolution suffisante ou est-ce que c'est, selon vous, un peu timide ? Voilà, je vous pose la question à vous, Valérie Depade.
À mon avis, on joue un peu sur les mots,
ouais,
là, quand même.
On joue sur les mots. C'était là que je voulais vous amener.
La loi de 2016 est mal comprise, et pour moi, la preuve qu'elle est mal comprise, c'est que régulièrement, les médecins ou les patients parlent de la sédation profonde et terminale. Vous voyez, dans l'esprit des gens, on y est déjà.
Jean-Louis Turenne, c'est un petit peu hésitant, cette proposition du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes d'accord?
Non, je pense que très, très clairement, ils indiquent une injection létale qui veut bien dire que c'est une aide active à mourir. Effectivement, la formulation est légèrement différente, mais le geste est le même, c'est-à-dire que une personne en fin de vie avec une maladie incurable peut solliciter une injection létale. Cette injection, naturellement, se fait en réalité en deux phases. Une première phase qui endort la personne, et la deuxième phase, quelques minutes plus tard, qui injecte le produit qui arrête le cœur. Donc il y a bien une sédation et une injection létale en quelques minutes.
Oui, techniquement, il y a deux injections, hein, c'est bien ça.
Voilà, mais tout ceci se faisant avec la présence de la famille autour. Et donc, on peut dire un environnement qui permet à cette fin de vie d'être la moins douloureuse possible. Autant pour la personne qui s'en va que pour les proches. Alors que quand on a ces sédations parfois très prolongées, qui peuvent durer plusieurs semaines, la famille ne peut pas rester plusieurs semaines autour du mourant. Et bien souvent, la personne décède complètement solitaire, isolée, sans avoir pu d'ailleurs transmettre quoi que ce soit, parce que la sédation lui interdit toute relation avec ses proches.
Tout échange.
Donc c'est pourquoi les gens préfèrent rester conscients le plus longtemps possible, donner des messages d'amour et de conseils à leurs proches, et puis ensuite partir le plus sereinement possible.
Valérie Depade, vous vouliez réagir?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Turenne. Cette sédation fait peur. Elle fait peur parce que je crois que personne ne peut affirmer, savoir ce qui se passe le temps de cette sédation. On voit la personne se modifier parce qu'elle n'est plus hydratée, elle n'est plus alimentée, donc on voit le corps se modifier.
Vous voulez parler de la sédation continue et longue.
Oui, profonde et continue. Elle fait très peur.
Oui.
D'où, je crois, la demande de passer à une aide à mourir plus rapide.
Oui. Est-ce que c'est une question qu'on est forcé de se poser, Jean-Louis Turenne? Est-ce qu'il y a des euthanasies sauvages aujourd'hui en France? Dans les hôpitaux, en milieu médical.
Malencontreusement, il y a entre 1000 et 2000 à peu près qui sont effectués, ou plus exactement, il y en a un peu plus de 2000 qui sont effectués, mais dont les deux tiers sont effectués à l'insu du malade. Et donc c'est à mon avis très grave, parce que ce n'est pas la volonté de la personne, c'est le corps médical ou l'environnement qui décide que cette vie n'a plus de sens. Et on n'a pas le droit de décider cela à la place de la personne. Je pense que c'est la vie de la personne qui doit être la priorité absolue. Et ensuite, bien évidemment, on valide cette demande et on la réalise. Mais pour l'instant, oui, il y a plusieurs milliers d'euthanasies qui sont réalisées en France, dans les hôpitaux, en catimini, de façon illégale. De même qu'il y a aussi plusieurs centaines de malades français qui vont en Belgique ou en Suisse pour requérir ce service. Alors que vous l'avez remarqué, il n'y a aucun Belge ni aucun Suisse qui viennent en France pour terminer sa vie. Prouvant bien que les conditions de l'organisation de la fin de vie ne sont pas adéquates en France. Et il faut compléter ce qui, pour l'instant, est encore une lacune. J'ajoute que la sédation profonde et continue, qui pouvait faire sens et qu'on peut imaginer dans certains cas, en réalité, on voit bien qu'elle est surtout confortable pour les médecins sur le plan éthique et émotionnel. C'est moins difficile de se dire, je fais une sédation très profonde, j'injecte un produit qui va endormir la personne, j'en injecte beaucoup de ce produit, donc peut-être que ça va hâter un petit peu la mort, mais j'ai pas l'intention de donner cet arrêt de vie.
Oui, parce que c'est difficile pour un médecin, pour quelqu'un qui a prononcé le serment d'Hippocrate,
c'est plus difficile.
De recourir à ça.
Tout à fait. C'est pourquoi, moi, je pense que plus tard, si la loi a le cheminement positif que j'espère, dans les décrets d'application, je pense qu'il faudra indiquer qu'à la différence de la Belgique ou d'autres pays, il faudra impérativement que ce soit réalisé par des médecins seniors. Ça ne peut pas être par un jeune interne, ça ne peut pas être par une infirmière, parce que cet engagement est quand même quelque chose de fort. Et en plus, la clause de conscience ne peut jouer que pour quelqu'un qui est totalement responsable. Quand vous êtes hiérarchiquement sous la coupe de quelqu'un, c'est difficile de refuser un ordre qui vous est donné.
Ouais, bien
alors
sûr.
Que le chef de service, lui, il se donne à lui-même, l'ordre ou pas.
Il faut que les responsables assument leurs responsabilités.
Exactement.
C'est ce que vous êtes en train...
Vous le dites très bien.
En train de nous dire. Valérie Depade, est-ce que à partir du moment où on aura autorisé cette double injection, est-ce qu'il n'y a pas un risque, et c'est ce que j'ai lu chez les opposants à l'euthanasie, pour le dire clairement, en préparant cette émission, que ça devienne le modèle?
Alors, pour ma part, j'ai toute confiance dans le législateur français. Vraiment, je pense pas que ça sera ainsi en France.
Une sorte de modèle social, quoi, quelque part.
Oui. Il est certain que la première préoccupation, à mon avis, qui doit être celle du législateur, c'est de ne jamais banaliser, donner les moyens à cette technique d'être banalisée. C'est pour ça que je trouvais très intéressant l'avis 63 du CCNE, qui proposait l'exception d'euthanasie. Maintenant, en tant que juriste, on sait qu'il est très difficile d'articuler la norme et l'exception, et que parfois l'exception devient si large qu'elle vide le principe de sa substance. Donc effectivement, il faut affronter les choses. Mais les termes de la loi devront être très prudents, et je pense qu'elle sera très difficile à rédiger, cette loi, parce qu'elle ne devra jamais être comprise comme une réponse à une détresse qui aurait d'autres causes que la douleur. Parce qu'alors là, ce serait le signe d'une déresponsabilisation indigne, que je n'imagine même pas, de l'État. Voilà, de l'État envers les plus vulnérables. Alors, on parle beaucoup, c'est vrai, de l'injustice qui consiste à ce que les personnes qui ont les moyens intellectuels, d'information et puis matériels de se rendre dans des pays où l'euthanasie est pratiquée le font, et qu'en France, celles qui ne doivent rester en France ne le peuvent pas. Et c'est tout à fait vrai. Mais il ne faudrait pas non plus que le processus s'inverse. Il ne faudrait pas que finalement cette possibilité qui existe en France soit comprise par les plus démunis comme une proposition. Vous voyez, qu'ils la vivent presque comme une mise en danger. Ceci dit, je fais confiance aux législateurs.
Alors, l'idée de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui n'est pas forcément très favorable à une évolution plus rapide, c'est d'améliorer et d'augmenter l'offre de soins palliatifs. Ça vous paraît une bonne chose, Jean-Louis Turenne? C'est suffisant ou pas?
Indubitablement, il le faudra, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que la moitié des malades qui devraient être en soins palliatifs, qui le sont. Donc il faut doubler les capacités. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. On le voit bien avec tous ces demandes de la part de personnes qui soit vont à l'étranger, soit demandent en France à ce que ça soit réalisé en catimini. Et vous le voyez bien qu'il faut faire l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est augmentation des soins palliatifs et introduction du libre choix dans les conditions de sa mort lorsqu'on a une phase terminale d'une maladie incurable. Et je suis bien d'accord avec ce qui a été dit, ceci demandera un encadrement très précis. Souvenez-vous d'ailleurs, pour l'IVG, il y a eu ce souci d'encadrement qui a été effectué et qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu plus d'avortements après la loi qu'avant. Simplement, ça s'est fait dans des conditions légales, encadrées,
et
médicalement acceptables et sanitaires.
Valérie Depade, vous voulez réagir?
Oui, non, mais je pense qu'on est tout à fait d'accord. Ce sera tout l'enjeu de cette loi.
Voilà. Il nous reste quelques secondes.
Est-ce que je peux dire que je partage tellement ce souhait qu'il n'y ait pas de dérive que je suis parfois sollicité par des gens qui disent, écoutez, je connais des personnes âgées qui ont plus envie de vivre. Je dis oui, mais ce n'est pas notre loi qui pourra y répondre. Je peux comprendre, et je connais moi aussi des personnes âgées de 95 ans ou davantage qui n'ont plus de raison de vivre et qui disent « Oh, arrêtez ma vie ». Non, ce n'est pas une maladie incurable d'être âgé, et ça ne doit pas correspondre à ce désir de soulager des souffrances d'une fin de vie pénible.
Valérie Depade, dans quelques secondes.
Je souhaite que cette loi soit rapidement votée pour qu'on puisse finalement dépasser le sujet et se préoccuper de la vie des personnes vulnérables.
Merci Valérie Depade. Merci à vous également, Jean-Louis Touraine, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Route du Jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.